Rome établit la vision. Numéro 5. Dévoiler les controverses prophétiques récurrentes dans l'adventisme. Comprendre les pilleurs de ton peuple.
Dans le dernier article, nous avons identifié 6 lignes de controverses prophétiques qui se sont manifestées dans l'histoire de l'adventisme depuis la période du mouvement millérite jusqu'à nos jours. Je soutiens que la première et la dernière controverse, au sujet des brigands de ton peuple, au verset 14 du chapitre 11 de Daniel, sont prophétiquement identiques. Les millérites comprenaient les brigands comme étant Rome, et les protestants enseignaient que les brigands étaient un roi syrien nommé Antiochus Épiphane.
Et en ces temps-là, beaucoup se lèveront contre le roi du Sud. De plus, les brigands de ton peuple se dresseront pour établir la vision, mais ils tomberont. Daniel 11:14.
À partir du verset 10 et jusqu'au verset 15, un conflit entre les royaumes d'Égypte et de Syrie est représenté. Dans ce passage, l'Égypte est le roi du Sud, et le roi syrien est présenté comme le roi du Nord. Le verset 10 désigne ce que des historiens appellent le début de la quatrième guerre syrienne, en 209 avant Jésus-Christ. Les versets 11 et 12 présentent la bataille de Raphia, en 207 avant Jésus-Christ, ainsi que ses conséquences. Puis les versets 13 à 15 présentent la bataille de Panium, en 209 avant Jésus-Christ. Dans les versets 10 à 15, le roi syrien est Antiochos le Grand, souverain de l'Empire Séleucide. Le verset 10 relate l'époque où Antiochos le Grand entame une guerre pour reprendre des territoires qui avaient été enlevés au royaume séleucide des années auparavant. Dans le verset, il reprend les territoires perdus en 219 avant Jésus-Christ, mais il cesse temporairement ses agressions et cherche à regrouper ses forces militaires. Il avait repris le contrôle des territoires perdus et avait atteint la frontière de l'Égypte, le royaume du Sud gouverné par la dynastie des Ptolémées. Entre 219 avant Jésus-Christ et 217 avant Jésus-Christ, le roi du Sud et le roi du Nord élaborèrent leur plan en vue de la bataille imminente de Raphia. La bataille de Raphia eut lieu en 217 avant Jésus-Christ, et le royaume du Sud, l'Égypte, dirigé par Ptolémée, l'emporta sur le roi syrien Antiochus Magnus, roi du Nord dans le passage prophétique. Puis, au verset 13 à 15, 17 ans plus tard, en 200 avant Jésus-Christ, Antiochus Magnus, qui avait alors formé une alliance avec Philippe de Macédoine, affronta l'Égypte lors de la bataille de Panium. Le royaume du Sud, l'Égypte, avait alors un roi enfant de 5 ou 6 ans, et Antiochus Magnus et Philippe ne purent s'empêcher de tirer parti du roi enfant d'Égypte, et Antiochus Magnus l'emporta lors de la bataille de Panium. Les trois versets qui présentent la bataille de Panium comprennent le verset 14, où une nouvelle puissance est introduite dans le récit prophétique. Les voleurs de ton peuple constituent une puissance différente de celle du roi égyptien du sud, du roi séleucide du nord, ou de Philippe, le souverain macédonien. Les millérites ont reconnu que Rome correspond aux voleurs de ton peuple. Une des racines hébraïques traduite par voleur signifie briseur. Rome païenne est représentée dans la prophétie comme la puissance qui devait mettre en pièces.
Après cela, je vis dans les visions de la nuit, et voici. Un quatrième animal, redoutable, terrible et extrêmement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il dévorait, brisait en pièces et foulait aux pieds le reste. Il était différent de tous les animaux qui l'avaient précédé. Et il avait 10 cornes. Daniel 7:7.
Lorsque Yahya Smith parle des brigands, il cite un historien qui souligne que les brigands représentent des casseurs.
Une nouvelle puissance est maintenant introduite. Les pilleurs de ton peuple. Littéralement, dit l'évêque Newton, les briseurs de ton peuple. Loin, sur les rives du Tibre, un royaume se nourrissait de projets ambitieux et de sombres desseins. Petit et faible d'abord, il grandit avec une rapidité merveilleuse en force et en vigueur, étendant prudemment son action çà et là pour éprouver sa vaillance et mesurer la vigueur de son bras belliqueux. Jusqu'à ce que, conscient de sa puissance, il dressa hardiment la tête parmi les nations de la terre et saisit d'une main invincible de gouvernail de leurs affaires. Dès lors, le nom de Rome s'inscrit sur la page de l'histoire. Destiné pendant de longs siècles à diriger les affaires du monde et à exercer une puissante influence parmi les nations jusqu'à la fin des temps.
Vom parla. Et la Syrie et la Macédoine virent bientôt un changement se produire dans l'aspect de leurs rêves. Les Romains intervinrent en faveur du jeune roi d'Égypte, résolus à ce qu'il fût protégé de la ruine imaginée par Antiochus et Philippe. C'était en 200 avant Jésus-Christ, et ce fut l'une des premières interventions importantes des Romains dans les affaires de la Syrie et de l'Égypte. Uriah Smith, Daniel and Revelation 287.
La prédiction exposée dans ces versets s'est accomplie en l'espace d'environ 20 ans, de 219 avant Jésus à 200 avant Jésus. Mais les prophètes parlent davantage des derniers jours que des jours où ils vivaient.
Chacun des anciens prophètes a parlé moins pour son propre temps que pour le nôtre, de sorte que leur prophétie demeure valable pour nous. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre avertissement, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10:11. Ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils destinaient ces choses, qui vous ont maintenant été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile avec le Saint-Esprit envoyé du ciel. Choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1:10-11. La Bible a accumulé ses trésors et les a rassemblés pour cette dernière génération. Tous les grands événements et les actes solennels de l'histoire de l'Ancien Testament se sont reproduits et se reproduisent dans l'Église en ces derniers jours. Message choisi, livre 3, 336-339.
Bien que Daniel n'ait pas vécu durant la période de 20 ans que nous considérons, l'inspiration, à travers les écrits de Sir White, nous informe qu'une grande partie de l'histoire consignée dans Daniel 11 doit être répétée lors de l'accomplissement final de Daniel 11.
Nous n'avons pas de temps à perdre. Des temps troublés nous attendent. Le monde est agité par l'esprit de guerre. Bientôt, les scènes de détresse dont parlent les prophéties auront lieu. La prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son plein accomplissement. Une grande partie de l'histoire survenue en accomplissement de cette prophétie se répétera. Manuscript Releases, numéro 13, 384.
Les versets 10 à 15 de Daniel 11 décrivent l'histoire des derniers jours qui conduit à l'imminente loi du dimanche, car le verset 16 indique quand Rome, pour la première fois, a conquis le pays glorieux.
Mais celui qui viendra contre lui fera selon sa volonté, et nul ne tiendra devant lui. Il se tiendra dans le pays glorieux, qui sera consumé par sa main. Daniel 11, 16.
Daniel emploie l'expression « pays glorieux » deux fois dans ses écrits. La première se trouve au verset 16, lorsque la Rome païenne littérale a conquis le pays glorieux littéral de Juda.
Bien que l'Égypte ne pût tenir devant Antiochus, le roi du Nord, Antiochus ne put tenir devant les Romains, qui venaient alors contre lui. Aucun royaume ne fut désormais en mesure de résister à cette puissance montante. La Syrie fut conquise et annexée à l'Empire romain, lorsque Pompée, en 65 avant Jésus-Christ, dépouilla Antiochus Asiaticus de ses possessions et réduisit la Syrie au rang de province romaine. La même puissance devait aussi se tenir dans le pays saint, et le consumèrent. Rome s'unit au peuple de Dieu, les Juifs, par alliance, en 1740 démo par Géoessé, date à partir de laquelle elle occupe une place marquante dans le calendrier prophétique. Toutefois, elle n'acquit juridiction sur la Judée par conquête effective qu'en 63 avant Géoessé, et cela de la manière suivante. Uriah Smith, Daniel and Revelation, 215.
L'autre verset où Daniel emploie l'expression « pays glorieux » se trouve au verset 41.
Il entrera aussi dans le plus beau des pays, et beaucoup de pays seront renversés. Mais ceux-ci échapperont à sa main, Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon. Daniel 11, 41.
Le verset 41, bien sûr, suit le verset 40, et le verset 41 commence par les mots « et au temps de la fin ». Dans The Great Controversy, Sir White identifie 7790 comme le « temps de la fin », de sorte que le verset 41 présente l'histoire qui suit le temps de la fin en 7798.
« Mais au temps de la fin, dit le prophète, beaucoup courront ça et là et la connaissance augmentera. » Daniel 12, 4. Depuis 1798, le livre de Daniel a été décellé. La connaissance des prophéties a augmenté et beaucoup ont proclamé le message solennel que le jugement est proche. La grande controverse, 356.
Le pays glorieux du verset 41 n'est pas l'ancien Juda littéral d'autrefois, mais le Juda spirituel moderne. Les États-Unis sont le Juda spirituel moderne, et le verset 41 identifie la loi du dimanche imminente aux États-Unis.
Mais ce n'est pas le spirituel qui vient d'abord. C'est le naturel. Ensuite vient le spirituel. 1 Corinthiens 15, 46.
Cette loi du dimanche est préfigurée par le verset 16, car une grande partie de l'histoire qui s'est déroulée dans l'accomplissement de Daniel 11 est appelée à se répéter. Dans les derniers jours, les versets 10 à 15 représentent l'histoire qui précède et conduit à la loi du dimanche. Le roi du Nord dans ses 5 versets, ainsi que le roi du Sud, qui furent accomplis par le roi Séleucide, Antiochus Magnus et les rois égyptiens du royaume ptolémaïque, représentent des puissances qui sont au centre de l'histoire menant à la loi du dimanche imminente. Ces versets identifient l'histoire du mouvement des 144 000, car le verset 10 identifie l'effondrement de l'Union soviétique en 1989 et le verset 16, la loi du dimanche imminente. Le Christ met en évidence ces versets en alignant le verset 10 avec le verset 40 et le verset 16 avec le verset 41. La référence directe au pays glorieux, littéral, qui typifie le pays glorieux spirituel du verset 41, constitue la fin des six versets, et le verset 10 en est le commencement. De même que Christ a fait en sorte que le verset 16 est un lien direct avec le verset 41, de même le verset 10 a un lien direct avec le verset 40. L'expression du verset 10, « débordé et traversé », est la même expression hébraïque qui est traduite par « débordé et passé par-dessus » au verset 40. Cette expression ne se trouve qu'à un autre endroit dans les Écritures, mais elle y est traduite un peu différemment que dans les versets 10 et 40. Néanmoins, c'est la même expression hébraïque.
Et il traversera Juda. Il débordera et passera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira toute l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel. Ésaïe 8.
Expression d'Ésaïe, déborder et franchir, est la même que celle du verset 10, déborder et traverser, et que celle du verset 40, déborder et passer par-dessus. Qui plus est, chacun des trois versets décrit une attaque du roi du Nord contre le roi du Sud. Dans Ésaïe, le roi du Nord d'Assyrie, Sennachérib, attaquait Juda, le royaume du Sud d'Israël. Au verset 10, Antiochus Magnus, le roi du Nord de l'Empire Séleucide, attaquait le royaume du Sud, l'Égypte. Au verset 40, le roi du Nord, la puissance papale, qui avait reçu une blessure mortelle au début du verset 40, attaquait la puissance athée du Sud, l'Union soviétique. Chaque verset représente la même structure prophétique d'un conflit entre les rois du Nord et du Sud. Et dans chacun d'eux, le roi du Nord déborde et passe par-dessus. Le témoignage des Aïssanais et le verset 10 indiquent tous deux que, lorsque le roi du Nord attaque, il s'arrête avant d'entrer dans la capitale du royaume du Sud. Sennachérib porta la guerre jusqu'aux murailles de Jérusalem et pas au-delà. En 219 avant Jésus-Christ, Antiochos le Grand parvint à la frontière de l'Égypte et s'arrêta. Puis il perdit la bataille de Raphia, qui eut lieu 2 ans plus tard, en 217 avant Jésus-Christ. Sennachérib vint jusqu'aux murailles de Jérusalem et perdit la bataille, car Dieu intervint.
C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur au sujet du roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas une flèche, il ne se présentera pas devant elle avec un bouclier, et il n'élèvera pas de terrassement contre elle. Par le chemin par lequel il est venu, par le même, il s'en retournera, et il n'entrera pas dans cette ville, dit le Seigneur. Car je protégerai cette ville, pour la sauver, à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000. Et quand on se leva de bon matin, voici, ils étaient tous des cadavres. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, partit, s'en alla, revint et demeura à Ninive. Et il arriva, comme il se prosternait dans la maison de Nisroch, son dieu, qu'Adramlec et Charézer, ses fils, le frappèrent avec l'épée. Et ils s'enfuirent au pays d'Arménie. Et Esaradon, son fils, régna à sa place. 2 Rois 19:32-37.
En 989, le roi du Nord a balayé l'Union soviétique, mais il ne s'est pas emparé de sa capitale. La Russie est restée debout. La bataille suivante, préfigurée aux versets 11 et 12, fut la bataille de Raphia, qui était aussi préfigurée par la mise en déroute de l'armée de Sennachérib et sa mort ultérieure, ce qui indique une victoire du roi du Sud, qui était Juda dans le témoignage de Sennachérib et Raphia dans le témoignage d'Antiochus Magnus. Le verset 10 établit un lien direct avec le verset 40. Et le verset 16 établit un lien direct avec le verset 41. Les versets 10 à 16 représentent l'histoire de 1989 jusqu'à la loi du dimanche. Ce verset représente une histoire cachée au verset 40 qui commence avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1989 et se poursuit jusqu'à la loi du dimanche. Le verset 10 relie également directement les 7 temps de Lévitique 26 à l'histoire cachée. Mais cette ligne de vérité dépasse ce que nous exposons ici. Dans l'histoire militriche, la première de 6 controverses majeures au sein de l'adventisme concernant l'identification correcte de Rome eut lieu, et elle portait sur la question de savoir qui les brigands du verset 14 représentaient. Les protestants soutenaient qu'ils représentaient Antiochus Épiphane, et les militriches les identifiaient à Rome. Dans la dernière controverse de l'adventisme concernant l'identification correcte de Rome, il est également question des brigands du verset 14. Un groupe, représenté par les Milétriches, maintient la compréhension fondamentale des Milétriches, laquelle a été approuvée par l'esprit de prophétie.
J'ai vu que le tableau de 1153 était dirigé par la main du Seigneur et qu'il ne devait pas être modifié, que les chiffres étaient tels qu'il les voulait, que sa main le couvrait et dissimulait une erreur dans certains chiffres, de sorte que personne ne pouvait la voir, jusqu'à ce que sa main soit retirée. Premiers écrits, 74.
Ce diagramme sacré identifie la controverse avec la notation de 164 vers Jésus.
164 mort d'Antiochus Epiphane, qui, bien sûr, ne s'adresse pas contre le prince, puisqu'il est mort 166 ans of Avlanescence du prince, le prince.
La référence à cette controverse sur le tableau sacré constitue la seule vérité qu'il présente, qui ne soit pas fondée sur un passage prophétique de la parole de Dieu. Ce faisant, elle identifie un jalon, non de l'histoire biblique, mais de l'histoire adventiste, et il ne devrait pas être modifié, car la controverse indique comment la vision prophétique est établie. Rejeter cette vérité fondamentale, c'est rejeter simultanément l'autorité de l'aval donné par l'esprit de prophétie au tableau sacré.
La toute dernière tromperie de Satan sera de réduire à néant le témoignage de l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29:18. Satan agira avec ingéniosité, de différentes manières et par divers agents, pour ébranler la confiance du reste du peuple de Dieu dans le témoignage véritable. Il introduira de fausses visions pour égarer et mêlera le faux au vrai, au point de dégoûter les gens, si bien qu'ils considéreront tout ce qui porte le nom de vision comme une forme de fanatisme. Mais les âmes sincères, en opposant le faux au vrai, seront à même de les distinguer. Message choisi, livre 2, 78.
La dernière controverse des brigands de ton peuple est la même que la première. Et sans comprendre le symbole qui établit la vision, le peuple périt. Ils périssent parce qu'ils rendent sans effet le témoignage de l'Esprit de Dieu. L'autre classe affirme que les États-Unis sont représentés comme les brigands du verset d'Emmanuque. Cette classe est incapable ou peu disposée à voir qu'Antiochos le Grand, dans les versets 10 à 15, représente les États-Unis. De même que les protestants de l'histoire, Millérite, affirmaient que les brigands étaient Antiochos, la classe qui ne veut pas voir identifie les brigands comme le pouvoir, les États-Unis, typifiés par Antiochos. L'attaque de Sennachérib contre Juda, qui parvint jusqu'à la capitale, Jérusalem, mais échoua, fut menée par le général de Sennachérib, le Rabshakeh.
Maintenant, donc, je te prie, donne des gages à mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je te livrerai 2000 chevaux, si tu peux, de ton côté, y mettre des cavaliers. Comment alors repousseras-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon seigneur, et tu t'appuies sur l'Égypte pour des chars et des cavaliers? Suis-je maintenant monté contre ce lieu sans le seigneur pour le détruire? Le Seigneur m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Alors Éliakim, fils de Hilkia, et Shebna, et Joa, dirent à Rabshakeh, parle, je te prie, à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue des Juifs aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Mais Rabshakeh leur dit, mon Seigneur m'a-t-il envoyé à votre maître et à vous pour dire ces paroles? Ne m'a-t-il pas envoyé aux hommes qui sont assis sur la muraille, afin qu'ils mangent leurs propres excréments et boivent leur propre urine avec vous? Alors Rabshakeh se tint debout et cria d'une voix forte en langue des Juifs, et il parla, disant, « Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. » 2 Rois 18, 23-28.
Le Rabshakeh ne présentait pas ses paroles, mais celles de Sennachérib, roi d'Assyrie. Dans Daniel 11, verset 40, le roi du Nord et la puissance papale, qui au temps de la faim, en 1798, reçut une blessure mortelle de la part de la France athée, le roi du Sud. Dans le verset, le roi du Nord finit par riposter et submerge le royaume du Sud, l'URSS, en 1989. Lorsque le roi du Nord accomplit cette œuvre, il amena avec lui des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Chars et cavaliers représentent la puissance militaire et navires représentent la puissance économique. Ces symboles identifient les États-Unis comme le bras armé par procuration de la Rome papale dans la victoire de 1989, comme le typifie Rabshakeh. Antiochos le Grand, au verset 10 à 15, représente les États-Unis. Et comme William Miller a correctement relevé que le mot « aussi » au verset 14 marque l'entrée d'une nouvelle puissance dans le récit prophétique, les voleurs doivent représenter une puissance distincte tant des rois ptolémaïques du Sud que d'Antiochos, roi du Nord, et de Philippe de Macédoine.
Le roi du Midi, dans ce verset, signifie sans aucun doute le roi d'Égypte,
Mais ce que signifient les pillards de ton peuple demeure encore un doute, peut-être pour certains. Qu'il ne peut s'agir d'Antiochus ni d'aucun roi de Syrie, c'est évident, car l'ange avait parlé de cette nation pendant plusieurs versets auparavant, et dit maintenant « aussi les pillards de ton peuple », etc., ce qui implique manifestement une autre nation. J'admets qu'Antiochus a peut-être dépouillé les Juifs, mais comment cela pourrait-il établir la vision, puisque nulle part dans la vision il n'est question d'Antiochus accomplissant un tel acte, car il appartenait à ce qu'on appelle, dans la vision, le royaume grec. De plus, établir la vision doit signifier la rendre certaine, la compléter ou l'accomplir. William Miller, Œuvre de Miller, Conférence 6, 49.
Antiochus était un nom choisi par de nombreux rois de l'empire séleucide Syria. Le fondateur de cet empire était Séleucide Nicator, et la liste complète des rois séleucides compte entre 26 et 30 souverains. Bon nombre de ces rois ont choisi le nom Antiochus, tout comme les papes choisissent un nom de règne lorsqu'ils sont élus papes. Les papes sont tous « antéchrist », ce qui signifie « contre le Christ ». Le mot « anti » signifie « contre ». En tant qu'antéchrist, ils ont pris le nom de leur ancêtre spirituel qui est Satan. Satan et les papes sont tous deux identifiés comme l'antéchrist par inspiration.
La détermination de l'antéchrist à mener la rébellion qu'il a commencée au ciel continuera d'être à l'œuvre chez les fils de la désobéissance. Témoignage, volume 9, 230.
Un pape est un représentant de Satan. Ainsi, tous deux sont contre le Christ et sont donc l'antéchrist. Il choisit un nom lorsqu'il devient pape et devient le représentant terrestre de Satan.
Pour s'assurer des gains et des honneurs mondains, l'Église fut amenée à rechercher la faveur et le soutien des grands de la terre. Et ayant ainsi rejeté le Christ, elle fut amenée à prêter allégeance au représentant de Satan, l'évêque de Rome. La grande controverse 50.
C'est à leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Et les papes poursuivent la même œuvre que Satan.
Par l'intermédiaire du pape de Rome, la même œuvre s'est poursuivie, ici-bas sur la terre, que dans les cours du ciel avant l'expulsion du prince des ténèbres. Satan a cherché à corriger la loi de Dieu au ciel et à y apporter un amendement de son cru. Il a exalté son propre jugement au-dessus de celui de son Créateur et placé sa volonté au-dessus de la volonté de Jéhovah. Et ce faisant, a virtuellement déclaré Dieu faillible. Le pape suit également la même voie et, se prétendant infaillible, cherche à adapter la loi de Dieu à ses propres idées, se croyant capable de corriger les erreurs qu'il croit voir dans les statuts et les commandements du Seigneur du ciel et de la terre. Il dit, pour ainsi dire, au monde, « Je vous donnerai de meilleures lois que celles de Jéhovah. » Quelle insulte au Dieu du ciel. Things of the Times, 19 novembre 1894.
Bien que Séleucos Nicator ait fondé l'Empire séleucide, de nombreux rois parmi ses successeurs choisirent le nom Antioche, en l'honneur non pas de Séleucos, mais de son père. Le père de Séleucos, Antioche, était un noble et un général au service du roi Philippe II de Macédoine, qui était le père d'Alexandre le Grand. Ce statut noble et ce parcours militaire contribuèrent à jeter les bases du rôle éminent de Séleucos lui-même et de son ascension ultérieure au pouvoir après la mort d'Alexandre le Grand. Le royaume de Séleucos fut établi lorsqu'il prit le contrôle de trois des quatre régions du royaume d'Alexandre. Rome conquiert également trois puissances géographiques afin de prendre le contrôle et de devenir le roi du Nord. Quand Séleucos eut assuré le contrôle de l'Est, de l'Ouest et du Nord, il devint le roi du Nord dans le récit historique, et sa capitale était la ville de Babylone. Beaucoup des rois suivants choisirent le nom Antiochus lorsqu'ils montèrent sur le trône du Nord afin d'honorer leur ancêtre politique. Le parallèle est facile à voir, si vous choisissez de le voir. Si vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas. Le nom Antiochus, Angesus en grec, vient des éléments grecs anti signifiant contre ou opposé et okeo signifiant tenir ferme ou maintenir. Les rois du Nord ont choisi ce nom pour maintenir l'héritage politique de leur père, tout comme l'antéchrist, les papes, choisissent des noms lorsqu'ils commencent à régner. De même que les papes sont des représentants de leur père, le diable, de même les Antiochus de l'Empire syrien, incarnent des représentants de leur père. Dans cette application, Antiochus représente un relais de leur père. Le relais du pouvoir papal en 1989 était les États-Unis, et le témoignage séculier était la relation entre l'antéchrist, le pape Jean-Paul II, et Ronald Reagan dans leur œuvre visant à faire tomber l'ancienne Union soviétique. Dans les versets 10 à 16, le premier et le dernier verset comportent des références directes aux versets 40 et 41. Le verset 10 correspond directement au verset 40. Le verset 16 correspond directement au verset 41. Ces versets représentent la partie de la prophétie de Daniel qui concerne les derniers jours.
Le livre qui avait été scellé n'était pas le livre de l'Apocalypse, mais cette partie de la prophétie de Daniel qui concernait les derniers jours. L'Écriture dit « Mais toi, ô Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup iront ça et là, et la connaissance augmentera. » Daniel 12, 4. Lorsque le livre fut ouvert, on proclama « Il n'y aura plus de temps. » Voir Apocalypse 17. Le livre de Daniel n'est plus scellé, et la révélation faite par le Christ à Jean doit parvenir à tous les habitants de la terre. Par l'accroissement de la connaissance, un peuple doit être préparé à tenir ferme dans les derniers jours.
Dans le message du premier ange, les hommes sont appelés à adorer Dieu, notre Créateur, qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. Ils ont rendu hommage à une institution de la papauté, rendant sans effet la loi de Jéhovah, mais la connaissance sur ce sujet doit s'accroître. Message choisi, livre 2, 105, 106.
Au temps de la fin, en 1989, les 6 derniers versets du chapitre 11 de Daniel représentent la portion de la prophétie de Daniel qui se rapportait au dernier jour. On a reconnu lorsqu'elle fut alors décelée, et cette levée du sceau produisit un accroissement de la connaissance sur l'institution de la papauté, rendant sans effet la loi de Jéhovah. L'alpha et l'oméga illustrent toujours la fin par le commencement, et le processus d'épreuve qui a commencé en 1989 était conçu pour produire deux classes d'adorateurs.
Est-il dit « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. » Daniel 12, 9, 10.
Nous sommes maintenant dans la phase finale de ce processus d'épreuve, car la controverse au sujet des brigands au début de l'adventisme se répète aujourd'hui. Identifier les brigands comme étant les États-Unis, c'est identifier Antioche comme étant les brigands. C'est la même controverse que celle des millérites et des protestants. À la fin du processus d'épreuve, tout comme au début du processus d'épreuve, qui a commencé en 1989, le lion de la tribu de Juda décèle cette portion de la prophétie de Daniel qui concernait les derniers jours. En 1989, c'était les 6 derniers versets de Daniel 11, et à la fin, c'est l'histoire cachée du verset 40, qui est typifiée par les versets 10 à 16. Nous poursuivrons, dans les articles suivants, notre examen des 6 lignes de controverse au sein de l'histoire de l'adventisme. La première de ces 6 controverses illustre la dernière de ces 6 controverses. Nous utiliserons la première et la dernière controverse pour les superposer aux 4 autres controverses, à mesure que nous développons les éléments liés aux efforts de l'ennemi de la justice visant à empêcher le peuple de Dieu de diviser correctement la vision, laquelle est établie par le symbole de Rome.
À moins que nous ne comprenions l'importance des instants qui s'écoulent rapidement dans l'éternité et que nous ne nous préparions à nous tenir au grand jour de Dieu, nous serons des intendants infidèles. Le veilleur doit connaître l'heure de la nuit. Tout est maintenant empreint d'une solennité dont tous ceux qui croient à la vérité pour ce temps devraient prendre conscience. Ils devraient agir en vue du jour de Dieu. Les jugements de Dieu sont sur le point de tomber sur le monde et nous devons nous préparer pour ce grand jour. Notre temps est précieux. Nous n'avons que peu, très peu de jours de probation pour nous préparer à la vie future et immortelle. Nous n'avons pas de temps à perdre en actions désordonnées. Nous devrions craindre de nous contenter de survoler la parole de Dieu. Témoignage, volume 6, 407.